La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Dans la course à la présidentielle américaine, le Parti démocrate se rapproche de l'heure des choix.
Oui, dès ce mois de février, les partisans démocrates à travers les États-Unis vont commencer à voter pour choisir qui parmi la grosse douzaine de candidats à leur primaire est le ou la mieux placé pour affronter et pour battre Donald Trump en novembre prochain. L'enjeu est donc colossal, le processus d'investiture est fastidieux, incertain, mais il y a quelques heures, une voix influente s'est fait entendre, celle du New York Times, le journal dont on dit souvent ici à quel point il est engagé dans l'opposition journalistique médiatique à la présidence. Trump vient d'annoncer quel candidat a ses faveurs, son soutien, et on peut dire qu'il y a une surprise.
In this perilous moment, both the radical and the realist models warrant serious consideration. For this reason,
dans cette vidéo explicative, le comité éditorial du New York Times nous explique qu'en ces temps périlleux, les deux courants réalistes contre radicaux qui s'affrontent chez les démocrates méritent d'être écoutés. Alors le journal bouscule ses habitudes en choisissant non pas un, mais deux candidats.
Elizabeth Warren and Amy Klobuchar, each of whom articulates a different path forward.
Ce sont donc deux candidates qui sont retenues, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, après avoir reçu 9 candidats pendant des heures, après avoir débattu en direct face aux internautes dans un processus qui se voulait objectif, transparent, argumenté et mis en scène comme un talk show politique à suspense, les éditorialistes donc du Times font un choix ambivalent. À la fois, ils revendiquent le fait d'avoir choisi les deux seules femmes parmi donc les 9 candidats auditionnés, et à chaque fois, ils refusent de trancher sur cette division profonde en interne au Parti démocrate sur la ligne politique qui a le plus de chances de faire battre Donald Trump. Elizabeth Warren, professeure réputée de droit à l'université Harvard, incarne une ligne de critique radicale du système politique économique américain, dénoncée comme corrompue jusqu'à l'os. Les têtes pensantes du quotidien la mettent d'ailleurs en garde contre une propension au populisme et aux grandes promesses qui pourraient mener à de grandes désillusions, quand Amy Klobuchar, en face, sénatrice du Minnesota, est beaucoup plus centriste, beaucoup moins à gauche, et mise justement sur sa capacité à rassembler largement les classes moyennes et classes populaires du centre du pays.
Ce non-choix est tout de même un camouflet cinglant pour au moins 2 candidats.
À commencer bien sûr par Joe Biden, justement sur cette ligne centriste et rassembleuse sur laquelle le New York Times lui préfère Amy Klobuchar. Le journal explique que l'ancien vice-président de Barack Obama a beaucoup de qualités en politique, d'ailleurs il est en tête des sondages, mais il a 77 ans. Il est temps pour lui de passer le relais à la nouvelle génération, et de toute façon le statu quo obamien qu'il propose, ramener l'Amérique où elle en était avant Donald Trump, ne suffira pas, nous expliquons, à remettre le pays sur les bons rails pour l'avenir. Au centre donc, Joe Biden est désavoué. Sur l'aile gauche du Parti démocrate, c'est Bernie Sanders qui passe à l'as, en tout cas, on le rappelle dans les préférences du New York Times, qui rappelle lui également le grand âge de Sanders. Il aurait 79 ans à sa prise de fonction début 2021. Rappelle aussi des doutes sur sa santé, cette crise cardiaque qui l'a éloigné des estrades pendant quelques semaines à l'automne dernier. Et puis, le comité éditorial du Times lui reproche à Sanders son côté trop révolutionnaire, trop clivant, trop rigide pour fédérer les électeurs le plus largement possible. En ce sens, les préférences du journal de New York vont dans le sens d'un plus grand consensus, avec une Elizabeth Warren qui a des éléments de la gauche démocrate sans pour autant se dire socialiste, anticapitaliste et d'ailleurs sans renoncer au financement des grands lobbies américains pour sa campagne. Alors attention, ni Biden ni Sanders ne sont hors-jeu pour autant, ce n'est finalement que la consigne de vote et encore pas vraiment tranchée d'un journal, tout influent soit-il dans l'Amérique anti-Trump, un journal souvent vu par l'aile gauche du parti comme une institution conservatrice, finalement très centriste. Bernie Sanders en particulier aura donc beau jeu de capitaliser sur sa non-sélection pour s'affirmer comme le candidat qui fait peur à l'establishment, en attendant que la meilleure femme l'emporte. C'est ainsi que le New York Times conclut son entrée officielle dans la campagne présidentielle.
Et notre invité Pierre-Rose Envallon, on vous écoute, il publie un livre sur le populisme. On va l'interroger dans quelques instants sur l'avenir de la démocratie américaine par rapport à cette question du populisme. En attendant, pourquoi conclure, Camille, on va changer de sujet et de continent pour nous rendre à la mosquée du Petit Saconnet à Genève.
Oui, c'est le plus grand lieu de culte helvète tel que nous le présente le quotidien Le Temps, qui peut accueillir 1500 fidèles. Cette mosquée, elle a été inaugurée en 1978 par le roi d'Arabie Saoudite de l'époque, Khaled Ben Abdelaziz. Car comme beaucoup ces 4 dernières décennies à travers l'Europe, cette mosquée genevoise a été construite et gérée depuis grâce à des fonds saoudiens, administrés d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui par une filiale de la Ligue islamique mondiale dont on sait qu'elle est intimement liée au régime saoudien. Or donc, le Matin de Lausanne, hier dimanche, publiait une interview du secrétaire général de cette Ligue islamique mondiale, le saoudien lui-même, Mohamed Abdulkarim Alissa, qui annonçait que l'Arabie saoudite va se désengager de la gestion de la mosquée du Petit Saconnet. Il s'agit, nous explique-t-on, d'en confier la gestion à la communauté musulmane locale via un conseil d'administration composé de citoyens suisses et dirigé par un président élu, question de transparence. Mais pour le temps, donc, ce désengagement saoudien ne va pas se limiter au lieu de culte genevois. La monarchie, selon l'analyse qu'en fait Simon Petit dans Le Temps, veut se retirer beaucoup plus largement des mosquées qu'elle finance à l'étranger. Ça a déjà commencé apparemment à Madrid et à Bruxelles. Riyad, lit-on, se rend compte que la diplomatie religieuse qui lui a permis d'accroître son influence sur les musulmans d'Europe se révèle aujourd'hui être une arme à double tranchant, accusée de faire la promotion d'un islam ultra rigoriste propice à la radicalisation et au terrorisme. Aujourd'hui, donc, l'Arabie saoudite tente de dissiper ses critiques, affirme vouloir consacrer l'argent de son bras religieux à l'international à la promotion du dialogue interreligieux. C'est beaucoup plus consensuel, il faut le reconnaître. Sauf qu'à Genève, la communauté musulmane s'interroge désormais sur l'avenir de sa mosquée sans son principal financeur. L'édition suisse de 20 minutes s'étonne avec le spécialiste du monde arabe Hasni Abidi de la grande improvisation dans laquelle a été annoncé ce lâchage saoudien. Les fidèles l'ont appris dans la presse. Ils ne sont pas prêts à assumer seuls la gestion de leur lieu de culte, affirme le politologue, car il n'existe en Suisse aucun organe représentatif de la communauté musulmane. Cette communauté, habituée depuis 45 ans à ne pas se soucier de comment fonctionne sa mosquée, la voici donc face à un grand défi dont on ne sait pas encore comment il va être relevé.